C'est le rapport de l'islam avec la laïcité. Est-ce que l'islam est une religion qui est tellement particulière qu'elle se différencie fondamentalement du christianisme, du judaïsme ou des autres religions et que donc elle ne serait pas assimilable à la laïcité? Et la troisième, c'est un peu revenir sur la tradition marxiste et communiste qui m'a formé comme, et qui pour moi est très importante, c'est-à-dire à la fois les textes de Marx et d'Engels sur la religion, les textes de Lénine et les textes du Parti communiste français de Thorez à aujourd'hui. Et je crois que c'est très important d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette pensée marxiste par rapport à la religion. Alors sur la laïcité d'abord, je voudrais rappeler trois principes qui sont très, très mal compris. Parce qu'il y a une confusion quand on parle de laïcité. On a l'impression que c'est une philosophie sur laquelle il y a effectivement différentes interprétations et on se bagarre sur les interprétations. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a différentes interprétations de ce que serait une laïcité idéale. Par exemple, la question de l'école. Est-ce qu'il faudrait un système unique de l'enseignement? Ce à quoi pratiquement tous les partis politiques ont dans les faits renoncé. Donc on accepte une laïcité dans laquelle il y a une double scolarité, pourrait-on dire. Il y a d'autres débats qui remontent à très loin et qu'on retrouve aujourd'hui dans les organisations laïques. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand nous demandons aux citoyens, quels qu'ils soient croyants ou non-croyants, de respecter la laïcité, on leur demande de respecter les lois laïques. Et des lois laïques, il n'y en a pas des millions. Il y en a globalement les lois de 1882-1886 qui séparent l'éducation de l'Église et la loi de 1905. Et ensuite, la jurisprudence du Conseil d'État. C'est évident que, comme toutes les lois, il y a des milliers et des milliers de cas où on ne sait pas très bien comment l'appliquer. De temps en temps, on sent dans les établissements une volonté d'avoir quelque chose qui réponde à toutes les questions. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez répondre à la question du foulard, et puis après vous allez répondre à la question de la longueur des jupes, et après vous allez répondre, enfin je veux dire, à mille et une questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc je voudrais dire, ce que la laïcité est dans la loi, c'est qu'elle règle les rapports des églises et de l'État. Et comme vous savez, c'est la loi de 1905 essentiellement. Il n'y a pas le terme de laïcité, d'ailleurs, dans la loi, qui règle ces rapports. Or, aujourd'hui, cette laïcité est devenue quelque chose d'un fourre-tout. Vous avez vu que depuis un an déjà, à l'éducation nationale, on a fait afficher une charte de la laïcité. Et à partir de septembre, on va demander aux parents d'élèves de signer cette charte. On ne dit pas qu'est-ce qui se passerait si les parents d'élèves ne signent pas cette charte, mais bon, ça me semble totalement inutile, mais je ne veux pas aborder ce débat maintenant. Ce qui me semble important, c'est par exemple, un des points importants de c'est de dire que la laïcité, c'est l'égalité homme-femme. Et alors là, on est, je ne sais pas si on est dans le mensonge absolu ou la négation de l'histoire, mais nous savons tous que l'Assemblée nationale qui a voté la loi de la laïcité était masculine à 100%, que jusqu'en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote dans la République laïque, que jusqu'en 1965, les femmes dans la République laïque n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans leur mari. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça ne veut pas dire que l'égalité homme-femme n'est pas importante. Mais il faut s'interroger pourquoi brusquement, c'est dans la laïcité qu'on essaye d'imposer cette égalité homme-femme, avec quand même quelque chose qui est le fait que, et là, je ne parlerai pas de la droite, la gauche française, de manière générale, a été extrêmement en retard sur tout ce qui concerne l'égalité homme-femme. Elle l'est encore, puisque le Parlement, c'est à 70% reste des hommes. Pour l'essentiel des conseils régionaux, des conseils départementaux, c'est présidé par des hommes. La gauche est venue très tard à cette question de l'égalité homme-femme, et on a l'impression aujourd'hui que cette manière d'intégrer la question des femmes à la laïcité, c'est une manière de dire, chez nous, les blancs, ça ne se pose pas, mais c'est vous, vous les musulmans qui n'assurez pas l'égalité homme-femme. Et c'est dangereux, non seulement parce que ça n'a rien à voir avec la laïcité, mais parce que ça présuppose ce que dit tout à fait Elisabeth Van Hunter, c'est chez nous, c'est réglé. Alors chez nous, on sait que les différences de salaire, les différences de poste, c'est absolument pas réglé, mais ça démobilise sur ces questions. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la laïcité n'est pas un concept fourre-tout. Ce n'est pas un concept qu'on peut mettre sur le même plan que liberté, égalité, fraternité, qui sont aussi des concepts, qui sont des concepts fourre-tout. On sait très bien que l'égalité dans la mise en place, elle est quand même loin d'être acquise chez nous, mais ce n'est pas ce concept fourre-tout. Il faut se battre sur l'idée que c'est ça, la laïcité, c'est les lois laïques. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la laïcité telle qu'elle a été définie en 1905 s'applique à l'État, aux fonctionnaires, mais jamais aux usagers du secteur public, jamais aux, même aux écoliers. Je veux dire, la première loi qui commence à limiter l'action politique dans les lycées, c'est en 1936, c'est des circulaires qui visent d'ailleurs les communistes, entre autres, sur l'activité dans les lycées. Mais globalement, les lois ont visé l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires devaient être neutres et l'État devait être neutre. Alors, il faut savoir que cette neutralité est relative quand même. Je veux dire, nous finançons, nous tous, l'entretien des églises et de tous les bâtiments religieux construits en 1905. Ça coûte énormément d'argent. Personne, enfin, je veux dire, j'ai pas vu de grand mouvement de masse pour dire c'est une trahison absolue de la laïcité. C'est aussi pour dire que la laïcité est un phénomène, enfin, historique. Il y a l'idée que, je suis en train de lire un bouquin j'ai lu dans le train un bouquin qui m'a mis hors de moi, mais bon, qui s'appelle l'ABC de la laïcité, qui est coordonné par Eddie Caldi et je ne sais plus quelques autres. Bon, je veux dire, on met complètement de côté le fait que, d'abord, il y a le fait que cette laïcité n'est pas pure en France, elle n'est pas... je veux dire, on voit en Alsace-Moselle, on voit, j'avais parlé du système d'enseignement, mais on voit aussi dans le financement. Et il y a des études qui ont été faites pour dire qu'en Allemagne, où il y a un impôt qui est prélevé sur les citoyens pour financer l'Église, globalement, il n'y a pas plus de frais de l'État allemand que de l'État français en faveur de la religion. Donc, c'est important de comprendre que les lois laïques sont le résultat d'une histoire qui est celle de la France, qui n'est pas celle des autres pays, et que la forme de séparation de l'Église et de l'État, elle est le résultat de l'histoire, elle n'est pas le résultat de principes. Et aujourd'hui, l'idée que la laïcité, c'est un principe universel que nous avons inventé, que personne d'autre n'applique comme nous l'entendons, et que nous le donnons au monde, me semble une arrogance mal placée. Une des choses auxquelles on assiste, pour montrer à quel point cette laïcité ne s'applique pas aux citoyens, ni à ce qu'on appelle l'espace public, c'est qu'il y a eu très tôt, dans le mouvement, si vous voulez, comme vous savez, la loi de 1905 a été adoptée par une alliance entre les radicaux et le parti socialiste naissant, et que les socialistes, notamment Jaurès et Briand, qui à l'époque étaient socialistes, ont joué un rôle majeur dans l'adoption de cette loi. Mais pour une partie du parti radical, qui était beaucoup plus anticlérical, et je reviendrai sur cette question, que les socialistes, il y avait l'idée que la loi de 1905 allait nous permettre de casser l'Église, casser la religion, d'en finir avec la religion. Et donc, au lendemain de l'adoption de cette loi, il y a toute une série de maires qui ont adopté deux types de décrets, un pour interdire les processions religieuses, et l'autre pour interdire les prêtres en soutane dans la rue de des villes, en disant que c'est contraire à la laïcité. Le Conseil d'État, comme j'ai dit, qui interprète les lois, a cassé toutes ces mesures et les processions, comme vous savez, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui et continuent d'exister. Moi, j'en avais dans le 10e pour le 15 août, il y avait une procession religieuse tous les ans. Ça ne pose aucun problème à personne. Donc, c'est clair que cette... laïcité ne s'applique pas aux citoyens. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est en train d'assister, ce à quoi on est en train d'assister, c'est une volonté de changer l'esprit de la loi de 1905. Et ça, ça me semble très important. Aujourd'hui, dans ce livre de Eddie Peldy, qui représente le contraire de ce que je pense, il dit « Nous ne voulons pas une laïcité ouverte, nous ne voulons pas une laïcité souple, etc. » Moi, je me suis dit, je suis totalement d'accord. Nous voulons la laïcité de la loi de 1905. Mais c'est vous qui la trahissez. C'est vous qui essayez de la transformer pour, en fait, je reviendrai, l'appliquer essentiellement aux musulmans, parce que le reste, c'est pas très important. Je veux dire, on voit bien que c'est la phobie à l'égard de l'islam qui crée cette, chose. Est-ce que ça serait trop demandé si quelqu'un me cherchait un verre d'eau? Je suis désolé, mais comme il n'y a pas de micro, c'est... Oui, merci. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit, la loi de 1905 est le résultat d'une histoire très particulière dans laquelle l'Église catholique était une... dans laquelle l'Église catholique était une force réactionnaire, hostile à la République et hostile à la démocratie. Donc on est vraiment... Et une Église qui ralliait 40% de la population, c'était pas rien, c'est-à-dire... Il y avait vraiment un combat sur l'avenir même de la République. Malgré ça, ce à quoi on a assisté dans la loi de 1905, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est une forme de compromis. C'est-à-dire une partie des radicaux voulaient, comme je l'ai dit, casser l'Église. Et ils le disaient tout à fait ouvertement. Et il y a eu un débat qui est très intéressant sur la loi de 1905, c'est qu'à un moment, vous avez la Révolution française avait nationalisé tous les lieux de culte, donc le problème c'est à qui on va donner la gestion des lieux de culte. Bon. Et alors il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale, quelqu'un a dit, mais supposons que deux associations se réclamant du catholicisme demandent Notre-Dame de Paris. Et les radicaux disent, on va couper Notre-Dame de Paris en deux. Enfin, en sens de le... Et en fait, le compromis qu'impose Jaurès, c'est de dire, non, pas du tout. Auront le droit d'utiliser Notre-Dame de Paris ceux qui seront mandatés par la hiérarchie catholique. Ça a soulevé un débat très, très important. Il y avait des gens qui disent, mais alors, vous reconnaissez Rome, vous reconnaissez l'Église catholique, etc. Mais c'est évident que c'était la seule solution. Ça m'amène à un mot sur, parce qu'il me semble important de le comprendre, pourquoi les socialistes sont ceux qui se battent pour un compromis. Et c'est résumé dans une formule de Jaurès, c'est il nous faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale. Jaurès dit et écrit, en 1905, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. D'impôt progressif. La plupart des lois sociales... Chaque fois que les socialistes demandent des lois sociales, les radicaux disent non, la lutte essentielle, c'est contre l'Église. Et donc, il y a vraiment l'idée que c'est une question, pas secondaire, mais seconde, et qu'il faut poser fondamentalement la question sociale. J'y reviendrai la pensée marxiste. Mais cette volonté de compromis... Elle s'est manifestée à toutes les étapes. Comme vous savez, en 1905, quand la loi est adoptée, l'Église refuse, l'Église française, sous la pression du Vatican, refuse de créer ce qu'on appelle les associations cultuelles qui doivent gérer les lieux de culte. La République aurait pu très bien dire, vous ne voulez pas les gérer. Je veux dire, on les prend. Et puis vous ne les gérez pas, donc ça veut dire plus de messes, etc. Elle a changé la loi de 1905. Ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent « Ah, on ne peut pas toucher, c'est un texte sacré. » Mais entre 1905 et 1907, sur une question fondamentale, qui était l'organisation du culte, la République a dit « On change de manière à poursuivre l'état de fait. » Et il y a une très belle formule, je crois, c'est de Briand, Aristide Briand, qui est un des concepteurs, il dit « face aux attaques de la droite qui disent vous voulez nous imposer ça et ça et ça, il a dit nous n'allons utiliser qu'une arme contre vous, celle de la liberté. Et de dire l'Église fera son expérience. Il a fallu 40 ans pour que l'Église catholique accepte la laïcité. Personne n'a dit nous allons dissoudre l'Église parce qu'elle est contre la laïcité. On a parié sur l'évolution, à la fois de l'Église, des catholiques, de la population française, et on a eu raison. C'est aujourd'hui, l'Église vous dit... nous sommes pour la laïcité. Alors après, il y a des interprétations aussi de la laïcité. L'Église n'a pas forcément l'interprétation que nous en avons. Mais elle n'est pas contre les lois de 1905. Et ça m'avait frappé quand on a voulu créer le Conseil français du culte musulman. On avait demandé aux toutes les organisations de signer un texte disant qu'elles acceptaient le principe de laïcité. On l'avait jamais demandé à l'Église catholique. Alors, elles ont toutes signé, c'est pas un problème. Mais on voit bien comment on utilise, comme on dit souvent, le système de deux poids, deux mesures. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire qui concernait la laïcité. Maintenant, comme tout le monde sait, je veux dire, cette laïcité aujourd'hui, qui avait disparu pratiquement de la sphère publique en dehors de l'école, est revenue uniquement à cause de la question de l'islam. Et je veux dire, enfin, on a beau dire, c'est les croyances, il n'y a pas de discrimination, c'est évident, enfin, pour moi en tous les cas, c'est évident que s'il y a débat aujourd'hui, c'est à cause des populations musulmanes. Alors ça amène à plusieurs réflexions. La première, c'est sur l'islam. Alors, une des choses qui est, à mon avis, la plus dangereuse et qui explique largement l'islamophobie qu'on peut sentir chez à la fois les responsables et dans la population, c'est l'idée que l'islam est une religion à part, qui ne s'expliquerait pas rationnellement et qu'on ne pourrait pas interpréter et analyser, et notamment parce que l'islam serait la fusion du pouvoir et de la religion.
Du religieux et du
pouvoir politique. Et que Mohammed Mahomet, qui était un chef de guerre, il était à la fois chef de guerre et chef religieux, ce que Jésus n'était pas. Ce qui, à mon avis, n'a vraiment aucun sens, dans la mesure où le fait que Jésus n'était pas un chef religieux n'a pas empêché les pouvoirs chrétiens d'être des pouvoirs religieux, coercitifs, etc. Et quand vous regardez, par exemple, au Moyen-Âge, les grands empires, enfin, le grand empire, qui est l'empire arabe abbasside, et le fonctionnement de l'empire byzantin, qui est un empire chrétien, ou le fonctionnement des états chrétiens, franchement, il n'y a pas de très grande différence sur la place de la religion. La religion sert partout de prétexte, mais il y a un corps religieux qui est mis à part, qui interprète les textes, et il y a une espèce de rapport, je dirais, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, avec toujours une domination du pouvoir politique. Ça n'a jamais été les religieux, dans aucune société, ni d'ailleurs en Europe, ni dans le monde musulman, où c'est les religieux qui ont fait qui décidaient le pouvoir. D'ailleurs, on sait très bien, quand on regarde l'histoire de l'Europe, je veux dire, avec ces alliances entre guillemets contre nature qu'il y a eu entre François Ier et l'Empire Ottoman. Ça n'avait rien à voir avec la religion, ça avait à voir avec le fait qu'il fallait combattre les Allemands. Enfin, je veux dire, c'est une alliance de revers, ce qu'on appelait, qui était un truc de géopolitique ou de réal politique tout à fait élémentaire. Et ça m'amène à dire une chose qui me semble très importante. On ne peut pas comprendre l'islam ou les mouvements islamiques parce qu'on a lu le Coran. Et ça, c'est vraiment une erreur. Il y a des gens qui pensent que... Vous savez, je raconte toujours l'anecdote. Après le 11 septembre 2001, il y a eu une ruée vers les librairies et on ne trouvait plus le Coran. Et dans un premier temps, ma réaction, c'était de dire, bon, les gens vont essayer de comprendre. Et puis je me suis dit, mais non, attends, ils vont aller chercher dans le Coran si on peut expliquer Ben Laden ou non. Je veux dire, c'est absurde. Je veux dire, on peut... Je veux dire, je ne dis pas que le discours... la connotation musulmane du discours n'a aucune importance, mais elle est complètement secondaire. Elle est un habillage, et nous le savons, alors là, en tant que marxiste, que ce n'est pas les idées qui font les mouvements politiques. C'est le contraire, c'est les mouvements politiques qui se servent à tel ou tel moment... à tel ou tel moment des idées. Donc, ce que moi j'appelle l'islamophobie, c'est le fait d'attribuer aux musulmans des caractéristiques spéciales parce qu'ils sont musulmans. Et de ne pas voir l'extraordinaire diversité à la fois de l'histoire musulmane et des musulmans aujourd'hui. c'est-à-dire quand vous allez au Mali, quand vous allez en Indonésie ou au Kosovo ou en France, les pratiques de l'islam ne sont pas les mêmes. La manière dont les citoyens de ces pays se comportent n'est pas la même. Leur vie quotidienne n'est pas la même. Bien sûr, il y a une foi commune, comme il y a dans l'Église catholique, avec un certain nombre de dogmes fondamentaux qui sont finalement, en termes religieux, assez limités. Donc je crois que ça, c'est vraiment très important. Et l'autre, si vous voulez, la conséquence de ça, c'est que, là aussi, je lisais un livre récemment sur Léniel, un livre qui est une charge contre les musulmans, ce qu'elle appelle les islamo-gauchistes, etc. Elle dit, il y a 5 millions de musulmans en France, ils sont maintenant 6%, ils étaient 4%, je ne sais pas, ils seront 8%. Vous savez qu'en 1995, il y a une du Figaro magazine, donc c'est il y a 30 ans exactement, qui était « Dans 30 ans, la France sera-t-elle musulmane ?» Nous sommes 30 ans après, je ne crois pas qu'on ait vu beaucoup de ministres musulmans ou on ait vu une vague. Mais ce qui me semble le plus inquiétant là-dedans, c'est qui est musulman ? Comment vous définissez un musulman ? Moi, je ne sais pas. Voilà, c'est-à-dire on les définit uniquement à travers les prénoms. Mais quand on interroge les gens, et c'est intéressant, les 5 millions, c'est comme les juifs, c'est-à-dire et musulman, et juif, et catholique, celui qui dit qu'il est juif, musulman ou catholique, point. Mais, et alors là, on n'est pas du tout dans les chiffres de 5 millions. De toute façon, je ne pense pas que 5 millions soit dangereux, mais cette manière à la fois de dire aux musulmans, il faut que vous intégriez à la République en tant qu'individu, mais en même temps, chaque fois, vous êtes comptable de tout ce qui se fait au nom de l'islam à travers le monde, c'est une contradiction absolue. C'est-à-dire, on leur demande d'être des individus dans le cadre de la République française, et en même temps, on leur demande d'être une communauté. Et s'il n'y a pas assez de monde dans la rue pour dénoncer telle ou telle chose, on dit, vous voyez, les musulmans suivent les radicaux. Quand on parle, alors, ceci étant, on est confronté à des problèmes qui sont ceux de la montée de ce qu'on appelle l'islamisme politique. D'abord, ce terme, je l'utilise qu'au pluriel, parce que islamisme, ça couvre des choses extrêmement différentes, et quand vous voyez la manière dont la presse l'utilise, c'est mettre un peu dans le même sac des mouvements qui n'ont pas du tout le même sens. C'est-à-dire, c'est le Hamas, c'est l'AKP en Turquie, c'est le Hezbollah, c'est les différentes tendances des frères musulmans qui sont très différentes en Tunisie, en Égypte, etc. Il y a l'idée que ces mouvements ont exactement le même objectif et la même stratégie politique et qu'ils sont alliés. Alors d'abord, ils ne sont pas alliés, ils n'arrêtent pas de se combattre. Aujourd'hui, une des crises majeures, c'est l'affrontement entre l'Arabie saoudite, qui est une des puissances, on peut dire islamistes, les plus réactionnaires, et les frères musulmans, c'est-à-dire que c'est bon... avec des alliances qui sont purement tactiques. C'est-à-dire, après les révolutions arabes, l'Arabie saoudite a été le fer de lance de la lutte contre les frères musulmans. Jusqu'au changement de roi, et aujourd'hui, il y a un rapprochement entre l'Arabie saoudite et les frères musulmans, pour des raisons qui tiennent au fait que les frères musulmans et les saoudiens sont alliés en Syrie et sont alliés au Yémen. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de théologique, c'est simplement des alliances politiques. Et encore une fois, ce qui est important, c'est d'analyser ces mouvements politiques, et chacun mérite une analyse avec les outils de la raison. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne tombe pas dans une espèce de mystique du fait qu'ils sont islamistes, ça les rend particuliers. Non, on peut très bien comprendre les stratégies du Hezbollah ou les stratégies du Hamas, en fonction de leur situation, en fonction de la situation en Palestine ou au Liban, en fonction des rapports entre le Liban et l'Iran, etc. Tout ça est accessible à la raison. Et les réponses à cette question ne se trouvent pas dans le Coran ou dans la doctrine islamique. Oui, je voulais dire aussi une chose à propos. J'ai dit que la séparation des églises, de la religion et de l'État existait sous certaines formes, n'était pas très différente dans l'Empire byzantin et dans, les empires arabes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le monde musulman, au-delà des discours, l'essentiel des institutions fonctionne sans aucune référence religieuse, même en Arabie Saoudite. C'est l'essentiel des lois, c'est des lois qui ont été traduites pas souvent venant de France. L'essentiel, si vous voyez une armée, elle n'est pas différente. Si vous voyez les entreprises, elles ne sont pas différentes. Il y a un domaine où c'est différent, c'est celui du statut personnel, c'est celui qui règle, qui est important, qui est tout à fait important puisqu'il s'agit de la situation des femmes, mais qui règle les rapports entre hommes et femmes. Et de ce point de vue, je voudrais dire un mot sur la charia, parce que c'est devenu une espèce de terme, comment dire, insultant. Toutes les constitutions dans le monde arabe, pratiquement aujourd'hui, ont, sauf la Tunisie, ont une référence à la charia. Le problème, vous savez, la charia, c'est quelque chose sur lequel les musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord. Pour nous, la charia, ça se limite à couper la main aux voleurs. Voilà. Pratiquement, le seul pays qui le fait, c'est l'Arabie Saoudite. Ça, en général, ça ne pose pas de problème à nos gouvernements. Mais ailleurs, ça peut poser un problème quand on parle de charia. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, la pensée classique musulmane, c'était la charia, c'est la voie vers Dieu. Et quand un religieux musulman donnait une opinion, puisque vous savez que c'est comme ça que ça se passe, il est interrogé par quelqu'un qui lui dit « qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ?» Et quand un religieux musulman donnait une opinion, il avait toujours soin de dire « la vérité, seule Allah a là ». C'est-à-dire « ce que je vous donne, c'est mon opinion personnelle, mais je peux me tromper ». Le problème, c'est qu'à partir du moment où, au XIXe siècle, a commencé la colonisation, les puissances coloniales ont voulu rendre ce texte, imprimer ce texte et en faire un recueil. Et c'est devenu un recueil en partie figé, qui a été utilisé, notamment, comme je l'ai dit, dans le statut personnel, les choses de statut personnel. Avec une autre dimension sur laquelle je reviendrai, c'est effectivement que depuis une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, on peut dire, sous la pression de l'Arabie Saoudite, il y a une version de l'islam particulièrement réactionnaire qui a été exportée dans tous les pays, à travers les pétrodollars, à travers le financement des mosquées, à travers l'envoi de milliers et de milliers de docteurs en théologie qui sortaient des universités saoudiennes, qui a été exporté. Mais pour la majorité, c'est-à-dire on ne comprend pas l'attachement à la charia dans la majorité des États musulmans, c'est un attachement à ce que la population considère comme un idéal de justice. C'est manipulé par les pouvoirs, c'est manipulé par les organisations islamistes aussi, mais il faut prendre en compte cet aspect-là. Et prendre en compte, et ça c'est quelque chose d'important, que l'histoire des régions, l'histoire des civilisations, l'histoire des pays n'est pas la même. Ça ne veut pas dire, je ne rentre pas du tout dans l'idée que d'une espèce de relativisme culturel où tout serait juste, pas du tout. Mais je pense que les voies de la libération ne sont pas les mêmes dans des pays qui ont été colonisés et dans des pays qui ont été colonisateurs. Et que ça, il faut aussi le prendre en compte. Alors maintenant, on est confronté à un phénomène, qui est effectivement un phénomène inquiétant, c'est celui de l'État islamique et d'Al-Qaïda, et comprendre pourquoi il suscite une telle attraction. Notamment dans la jeunesse, dans le monde arabe, et aussi chez nous. Alors il y a beaucoup de raisons, mais je pense qu'il y a aujourd'hui... Il faut dire concrètement que ces mouvements sont nés des guerres occidentales dans la région. C'est-à-dire, il n'y aurait pas Al-Qaïda, ne serait pas né si les Américains n'étaient pas intervenus. Pas Al-Qaïda, pardon. L'État islamique ne serait pas intervenu si les Américains n'étaient pas intervenus en Irak. Bien sûr, il y avait des groupes. Si vous voulez, la différence entre Al-Qaïda avant 2003 et aujourd'hui, c'est que Les gens qui allaient se battre pour Al-Qaïda, c'était une organisation terroriste avec des ramifications, mais c'était une organisation sans vraiment un soutien important. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont partis se battre dans les rangs de l'État islamique. Vous n'avez jamais vu ça en Afghanistan. Jamais. C'est-à-dire, ça s'est limité à quelques centaines ou quelques milliers là. Là, on est dans une autre proportion. Donc, il y a l'impression, et pas que l'impression, dans le monde arabe, que le monde arabe est sous une agression permanente occidentale. et que nous avons tendance à, à tirer un trait sur nos erreurs ou sur les crimes en disant « bon, mais ça, ça compte plus ». Mais je veux dire, on a détruit l'Irak. Je veux dire, on a fait 100 000 morts en Irak. On est dans une situation de guerre civile où je ne sais pas comment on va arriver à construire, reconstruire l'État irakien. Et nous, on dit, mais maintenant, c'est fini, on n'y est plus, donc c'est plus important. Donc, il y a aussi cet aspect qui est important. Il y a aussi, je ne reviendrai pas longuement, mais je pense qu'il est un élément, curieusement, que les Américains comprennent nettement mieux que les Européens, c'est la Palestine. À plusieurs reprises, les responsables des forces américaines dans la région ont dit, ce qui fait partir les gens pour se battre aux côtés d'Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est la Palestine. Alors nous, on peut penser, pourquoi ils vont se battre là-dessus? Parce que franchement, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la Palestine. Mais il y a l'idée aujourd'hui que l'État islamique est, la seule force crédible qui s'oppose à l'impérialisme américain. On peut le regretter, je regrette tout à fait. Mais je veux dire, il faut le prendre en question. Et dans un texte qu'il a fait Alain Berthaud, parler, il dit, on n'assiste pas à une radicalisation de l'islam, on assiste à une islamisation de la radicalité. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte. Alors je ne sais pas comment on combat ça, parce que c'est lié à la fois aux politiques occidentales dans la région, mais c'est aussi lié à la disparition des horizons chez nous. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'horizon. Pour changer cette société qui s'installe dans les inégalités, dans le chômage massif, etc. C'est pas dire simplement c'est seulement les opprimés qui partent du bâton. C'est très bien que même pour Al-Qaïda, il y a des gens des couches moyennes. Mais là où il y a 50 ans, ils auraient eu une espèce de perspective avec l'idée d'une révolution socialiste, etc. Aujourd'hui, ils n'en ont aucune. Et l'État islamique leur offre ça. Alors on peut dire, mais quand même, c'est des choses qu'on voit à la télévision, c'est tellement horrible. Ça. Oui, mais il faut se tenir compte d'un fait, c'est que le discours que nous tenons sur l'État islamique, pour une partie de la population, c'est un mensonge pur et simple. Française, je parle. C'est un mensonge pur et simple. Il y a ceux qui voient un complot juif, il y a ceux qui... Mais c'est un mensonge. Parce que les médias ont chez nous perdu toute crédibilité. Et là, à juste titre, pas sur cette question, mais en général, à juste titre. Et pourquoi vous allez croire ce type de propagande, alors que ils mentent sur tellement de choses, ils manipulent tellement de choses, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Alors, c'est dire aussi que la lutte contre cet État islamique, et là je parle en France et de l'attraction qu'elle peut exercer, elle n'est pas quelque chose de simple. Parce que les perspectives politiques sont bouchées. Et quand il y en a, comme en Grèce, moi-même, réellement, j'ai été stupéfait de la manière dont l'Europe a réglé le cas grec. Enfin, réglé, si on peut dire. Mais, c'est-à-dire que pour la première fois... Mais je pense qu'il y avait... C'était réellement délibéré. C'est-à-dire que pour la première fois où, depuis 1981... il y a un espoir d'une autre voie, on l'a en démoli en 3 mois. Et donc, mais je pense qu'en partie, ça va alimenter aussi ces gens qui, le désespoir des gens. Et puis, il y a un autre élément du désespoir qui, lui, ne concerne pas chez nous, mais concerne le monde arabe. Il y a eu plusieurs cas de militants très connus des mouvements égyptiens, tunisiens, démocratiques, qui ont été se battre dans l'État islamique ces derniers mois. Avec l'idée, c'est tellement bouché, quand vous voyez l'Égypte, que je connais un peu, je veux dire, il y a un tel sentiment de désespoir que, sans le justifier, évidemment, personne ne peut justifier d'aller se battre dans cette organisation, mais on peut comprendre pourquoi les gens, ils disent, mais il faut qu'on bouge. D'autant qu'on semble revenir exactement à la situation d'avant le printemps arabe, c'est-à-dire... dans la situation où les États occidentaux, après une petite autocritique en 2011, sont revenus, et c'est particulièrement vrai, il faut le dire, de la France, dans le soutien aux dictatures, que ce soit en Égypte, au Maroc ou ailleurs. Voilà, le troisième point sur lequel je voudrais terminer, c'est la tradition marxiste et communiste sur cette question. La question de la religion est une question qui a très vite divisé la gauche radicale, la gauche marxiste, et qui a tout de suite posé problème au XIXe siècle, parce que la religion était bien plus présente qu'aujourd'hui. Un des premiers débats qu'il y a, c'est dans, je crois, les statuts de la Première Internationale, le débat entre Marx et Proudhon sur qui a le droit d'adhérer à la Première Internationale. Et Proudhon veut que ce soit réservé aux athées, et Marx s'oppose à ça, et il obtient gain de cause. Puis vous avez, à partir de ce moment, toute une série textes de Marx et Engels autour de cette question de la religion, disant en gros, la religion est un facteur de division de la classe ouvrière. Et c'est quelque chose qui est utilisé par les classes dominantes pour diviser la classe ouvrière. Et que donc il faut laisser ces divisions derrière nous. Ça ne veut pas dire que les partis marxistes, à l'époque et aujourd'hui, ne se réclament pas du matérialisme historique, de l'athéisme, etc. Mais que c'est une question secondaire par rapport à la question des luttes sociales. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une tradition qu'on va retrouver chez Lénine, notamment quand il dit, pour le parti bolchevique, on peut avoir des croyants, on peut même avoir des prêtres. Pourtant, comme vous savez, le parti bolchevique a mené une lutte assez radicale contre l'église orthodoxe, etc. Mais c'était de dire, à partir du moment où les gens se battent pour la transformation sociale, c'est ce qui est important. Et je dois dire, c'est une tradition que le PCF a reprise en partie contre une partie de la gauche radicale et une partie de la gauche socialiste. Vous savez, il y a un texte dont je vais vous parler qui est très célèbre, de Maurice Thorez, « Nous tendons la main aux travailleurs catholiques ». Et je suis tombé par hasard, merci Google, parce que je cherchais le texte, et je tombe sur critique de Marceau Pulvert, qui était le chef de l'aile gauche de la CFIO, qui est radical en disant, mais vous abandonnez le marxisme, vous abandonnez l'athéisme, vous abandonnez, etc., etc. Et c'est intéressant de voir ça. Et c'est la même chose quand il y a eu le débat entre Jaurès et les radicaux. C'est-à-dire, en fait, les courants les plus anticléricaux n'ont jamais été les courants marxistes et révolutionnaires. Ça a toujours été les courants de la gauche bourgeoise, et voilà. Et donc, comme vous savez, c'est en 1936, au moment où le PC s'ouvre avec le Front populaire, que vient cette idée de main tendue aux travailleurs catholiques. Aujourd'hui, ça ne suscite pas de débat, mais il faut imaginer ce que c'était à l'époque. C'est un tremblement de terre par rapport à l'image qu'on a des communistes. Surtout que Thorez va rajouter quelque chose qui est encore plus iconoclaste, si on peut dire. Il dit, nous demandons aux travailleurs catholiques de rejoindre nos combats, non pas contre leurs idéaux, mais au nom de leurs propres idéaux. C'est-à-dire de reconnaître que dans le catholicisme, il y a des interprétations du catholicisme comme de toutes les religions, il y a un courant social qui a toujours existé, il y a eu un courant des catholiques de gauche très important en France et qui a joué, à mon avis, un rôle important. Ce courant, c'est pas au nom de l'athéisme ou au nom de matérialisme historique, mais de valeurs qui nous sont communes, en partie. Une forme d'humanisme, une forme de volonté de lutte pour la justice sociale. Et d'ailleurs, c'est un texte que le PC avait imprimé, que j'ai retrouvé sur, là aussi grâce à Google, parce que ça s'appelle « Communistes et chrétiens », Thorez, Waldeck Rocher, Georges Marché. Et il y a tous ces textes qui sont intéressants. Je suis tombé même sur une information qui m'a amusé, si on peut dire. C'est à propos, puisque vous savez qu'il y a tous ces débats sur les cantines scolaires. Il y a le premier maire socialiste de Roubaix, le guesdiste Henri Carrette, établit un repas maigre le vendredi lorsqu'il institua en 1892 les cantines scolaires. Et cela afin de ne pas blesser la conviction des ouvriers catholiques de Roubaix.
C'est trop beau, ça.
Ah oui, c'est trop beau. Et vous savez, moi j'ai été pensionnaire dans les années 60. On faisait carême le vendredi, je dirais, ça ne choquait personne. Le seul problème que ça nous posait, c'était du poisson frit, c'était dégueulasse, c'est qu'on n'avait pas envie de manger. Mais à part ça, je peux vous dire que personne n'avait d'état d'âme par rapport à ça. Et alors, je terminerai là-dessus. C'est si aujourd'hui, pour moi, la question de l'islam se pose avec force, et si je la pose avec telle force au Parti communiste, et si je vais notamment dans les municipalités communistes discuter de ces questions, c'est parce que je pense que c'est fondamentalement une question sociale. Et qu'en ratant ces dernières générations de travailleurs immigrés, le PC a raté quelque chose d'important. C'est-à-dire, le PC qui a été le facteur essentiel d'intégration de toutes les vagues d'immigration, et franchement, c'était pas facile. Et franchement, le racisme était, comme vous savez, immense, etc. Aujourd'hui, pour des raisons diverses qui ne tiennent pas toutes à lui, parce que, ne serait-ce que parce que le travail de la grande entreprise, c'est-à-dire des entreprises comme Renault qui permettaient d'unifier les gens, n'existe plus.
Oui.
Donc, il ne suffit pas de... Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a une responsabilité aussi du combat politique qu'on mène. Alors, en allant faire le tour d'un certain nombre de municipalités communistes de la région parisienne, surtout après la défaite du PC dans quelques... mairie, j'ai mesuré aussi qu'il y a, par exemple, à Saint-Denis où je suis allé, bon, je dis aujourd'hui, le conseil municipal, il y a beaucoup de musulmans. Je m'en fous de savoir s'ils sont croyants, pas croyants, et c'est pas du tout l'idée de faire monter des gens, mais parce que c'est aujourd'hui, dans ces villes, une partie importante des couches populaires. Et si on ne sait pas s'adresser à elles, et ça demande de réfléchir, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans la situation des années 40-50, où il y avait une hégémonie de la pensée de la gauche. On est dans une situation où il y a un discours salafiste et un discours islamiste. On est dans une situation où il y a un repli d'une partie de ces communautés. Donc c'est une question, je ne prétends pas du tout qu'il suffit d'y aller, etc. Mais en même temps, il faut y aller parce que c'est aussi là que ça se joue. Et si vous aviez, enfin je pense que certains d'entre vous ont lu un texte qui s'appelait « Pourquoi le PC a perdu Bobigny ?» C'est frappant, je veux dire. C'est la droite centriste qui a utilisé le langage de Frantz Fanon et radical pour gagner les populations musulmanes. Alors il y avait des raisons, c'est-à-dire il y a eu l'affaire du mariage pour tous. Encore une fois, c'était pas facile. Mais c'est vrai que si on ne s'attaque pas à ces problèmes, et si on ne réfléchit pas, parce que, et c'est aussi la différence, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, parce que c'est-à-dire qu'on est confronté à un phénomène qui n'a rien à voir avec ce que le PC a connu dans les années 30, 40 et 50. Je ne dis pas qu'il est plus simple, mais ça n'a rien à voir. Et ça ne fait pas partie, d'une certaine manière, de notre culture. Et c'est normal. Mais ça veut dire aujourd'hui qu'il faut faire un effort supplémentaire, à la fois de réflexion, à la fois de promotion de cadres issus de cette immigration, parce que c'est une manière, à mon avis, et c'est pour ça que moi, je me sens concerné, et c'est aussi mon histoire, c'est une manière de reconquérir en partie les classes populaires. Merci.